C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Jeudi 17 novembre, bonne journée, bienvenue au 98.5. Alors, ciel nuageux, très confortable ce matin, autour de moins 1 degré. Ça bougera pas tellement, puis on aura de la faible neige intermittente. Pas une très grosse quantité, mais peut-être 1 ou 2 centimètres pour l'ensemble de la journée. Et ça devrait se terminer au cours de l'après-midi. Nuageux par la suite. Et en soirée, ben, les températures vont glisser sous zéro, ce qui devrait donner autour de moins 5 durant la nuit. Et puis vendredi, demain, ce sera nuageux, quelques averses de neige le matin, un petit peu en après-midi, encore là des quantités minimes et des vents aussi légers, maximum autour de 0 degré. Vous planifiez vos activités de week-end. Samedi, on prévoit 2 degrés, soleil-nuage, et pour dimanche, possiblement un peu de neige. Mais encore là, je vous le dis, il n'y a pas de grosse quantité. Là. Quand je parle de quantité minime, là, c'est 1, 2, 3, peut-être 4 cm, pas plus. On va parler d'inflation ce matin. Votre portefeuille. Hier, on a eu droit au taux annuel d'inflation qui ne bouge pas tant que ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une courbe vers le haut. On est autour de 6,9 %, mettons 7 %. Qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est que d'abord, il y a des choses qui augmentent beaucoup plus que l'inflation, que la moyenne, que le taux. Votre panier d'épicerie coûte de plus en plus cher. Les augmentations sont moins fortes, mais c'est encore extrêmement lourd pour bien des gens. Et vous avez des produits qui sont touchés plus que d'autres. Je voyais ce matin un tableau dans la presse. Les pâtes alimentaires, c'est une augmentation de 44 %. La margarine, une augmentation de 40 %. Les œufs, 14 %. Les riz, ou les mélanges à base de riz, 14 %, les produits laitiers, 10 %, la fameuse laitue dont on parlait il n'y a pas si longtemps, une hausse de 30 %. Donc, ça veut dire que ça vous coûte plus cher. Le prix de l'essence aussi, parce qu'il y a eu quand même une augmentation dans les dernières semaines, c'est quand même une tendance vers le haut. Probablement que les taux d'intérêt ont joué dans le coût de l'habitation. Alors, ça veut dire qu'il y a une pression de plus en plus forte sur vos finances personnelles. Premier constat qu'on peut faire pour le mois d'octobre. Et je voyais dans la presse ce matin cette espèce de réflexion avec quelques données sur ce que ça veut dire pour des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, un panier d'épicerie qui coûte de plus en plus cher. Et selon certains chiffres, notamment de la santé publique, là, l'Institut national de santé publique du Québec, de mai 2020 à septembre cette année, le pourcentage de la population qui souffre d'insécurité alimentaire, modérée ou grave, là, est passé de 8 à 15 %. Ça veut dire quoi, ça, l'insécurité alimentaire? Ça veut dire des gens qui ont l'impression qu'ils sont pas capables de manger à leur faim, qu'ils vont être obligés peut-être de sauter un repas, puis peut-être deux. On parle de la Fondation Olo. Là aussi, on remarque une augmentation de la demande de coupons pour aider les familles qui veulent s'acheter des aliments essentiels durant la grossesse et les premières années de vie de l'enfant. Puis le troisième facteur qu'il faut considérer, c'est qu'on parle de gens aussi qui travaillent. Et des gens qui, même en travaillant, ont peut-être pas l'argent nécessaire, parle pas pour du luxe, on parle pour des besoins de base pour acheter de la nourriture. Bon. Le ministre des Finances, Éric Girard, dit que ça semble se stabiliser. Est-ce que les taux d'intérêt vont continuer d'augmenter? Certains pensent que oui. Ça pourrait aller probablement au début de 2023. Et entre-temps, vous avez les bannières qui présentent leurs chiffres. Métro, qui a eu une bonne performance. Ça arrive dans un contexte où on s'interroge jusqu'à quel point les chaînes ont profité de la hausse des prix. C'est vrai que les marges demeurent limitées, mais quand même, ça coûte plus cher. Puis je sais qu'il y a des gens qui m'envoient pratiquement, je dirais c'est au quotidien, là, des exemples de produits où pour le même prix, ben il y en a moins dans le sac. La quantité est à la baisse. Et puis en même temps, vous avez des chiffres qui sont présentés ce matin par les manufacturiers exportateurs du Québec, 7 milliards de dollars d'investissements de toute nature qui ont été perdus. Ça veut dire des contrats qu'on a dû refuser parce qu'on manquait de personnel, des contrats qui sont repoussés dans le temps. C'est pour 4 milliards. 98% des entreprises sondées disent avoir des postes vacants. 42 postes en moyenne à combler par entreprise. 39% des entreprises ont pensé déménager une partie de leurs activités ailleurs ou encore donner davantage de contrats à l'étranger. Ça arrive au moment, et je fais cette parenthèse ce matin, où le nouveau patron de Twitter, Elon Musk, qui a acheté Twitter pour 44 milliards, a décidé, depuis qu'il a pris le contrôle de l'entreprise, une série de mesures radicales. Et on le sait, là, imposer des montants aux abonnés. De temps en temps, il attaque les commanditaires. D'autres moments, il est en campagne de séduction. Il a sacré la moitié du monde dehors. Et après ça, il en a rappelé parce qu'il s'est trompé. Et là, hier, il a envoyé un courriel à tous les employés en disant « Voici le message, chers amis. Vous avez jusqu'à 17h jeudi, donc 17h aujourd'hui, pour nous dire si vous demeurez ou pas au sein de l'entreprise si vous faites partie de Twitter 2.0. Et que si vous décidez de rester, vous devez être conscient qu'il est fondamental d'adhérer aux principes de l'entreprise. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez travailler plus fort, vous allez travailler avec une plus forte intensité, vous allez être plus dévoué, sinon allez voir ailleurs. Et c'est comme ça que ça se passe, c'est Twitter. Alors, quand même assez rare là, qu'on voit un chef d'entreprise utiliser la place publique pour envoyer des messages comme ça aux employés. Puis en même temps, puis vous voyez, c'est un peu, on cherche la main-d'œuvre et là, c'est Amazon qui prépare des congédiements. Il y a Facebook qui l'a fait, la Meta, qui a également procédé à des mises à pied. Il y a un dossier que je suis pas mal, celui de la restructuration à venir ou du démantèlement, c'est selon, du groupe Sélection qui s'est placé à l'abri des créanciers. C'est gros, ça, le groupe Sélection. Des RPA, là, partout. Et ce qu'on constate depuis que c'est débattu devant le tribunal, en fait, le dossier devant le tribunal, c'est la désorganisation financière qui date de longtemps. Des employés m'ont écrit en me disant que c'est pas d'hier, qu'il y a un roulement de personnel, que même des employés ont de la difficulté à se faire payer. Je parle pas des fournisseurs. Et que donc, on étire. Puis que, en parallèle, il y a comme une espèce de croissance non-stop. Et que là, ben, les genoux plient. Et j'irai pas dans le détail de la bataille devant le tribunal pour savoir qui doit gérer la crise, mais c'est clair que ça fait longtemps qu'ils ont des problèmes. Et ce qui fait réagir beaucoup, c'est qu'on a appris dans le cadre des procédures que l'entreprise, donc, perd de l'argent, brûle, je cite l'article de la presse de ce matin, 7 millions de dollars parce qu'ils ont des déficits à combler dans les RPA, des fameux projets de construction en cours, des salaires des employés, des paiements mensuels, qu'on verse 1,5 million à deux entreprises contrôlées par les enfants du président et fondateur, M. Bouclain. Puis là, on a dit, oui, mais attention, ce ne sont pas des dépenses personnelles, là, il ne paye pas ses factures d'épicerie avec ça ou de restaurant. Semble-t-il que c'est pour de la stratégie, du marketing. Mais imaginez, juste avant de se placer ou la protection de la loi, pendant qu'il ne paye pas ses créanciers, Sélection a envoyé 2 millions au fiducier en question. Ça, ça a fait réagir pas mal, en disant, il y a de l'argent pour envoyer aux entreprises dirigées par ses enfants, mais il n'y a pas d'argent pour nous payer. Et je sais que le juge le dit, là, mais c'est important. C'est l'intérêt des gens qui habitent ces résidences, parce que eux aussi m'écrivent, là. Puis Pierre-Yves le disait plus tôt cette semaine, vous avez un bail, c'est pas un enjeu. ça sera peut-être vendu. Est-ce qu'on va démanteler? Est-ce qu'on va liquider? Est-ce qu'on va trouver une voie de passage? C'est ce que M. Bouclain semble vouloir faire. On verra. Mais c'est sûr qu'il y a une méfiance avec les banquiers. L'impression que ça va être difficile de se financer. Parce qu'à plusieurs reprises, on aurait mis en garde l'entreprise de ce portrait financier assez sombre. Mais c'est quand même particulier. Les masques. Hier, le point de presse, je pense qu'on peut résumer ça de trois façons. On le savait, là, il n'y aura pas de masque obligatoire. Et sauf erreur, en tout cas, c'est ce qu'on nous a dit au ministère de la Santé, ça prend de toute façon l'urgence sanitaire pour l'imposer. Puis on n'a pas les conditions pour une urgence sanitaire, avec les pouvoirs qui y sont attachés. Donc, ce qu'on dit aux gens, du côté de la santé publique, quand vous vous retrouvez en public, dans des endroits achalandés, ben, portez donc le masque. Pour vous protéger, par respect pour les autres. Puis là, ceux qui veulent pas entendre le discours du masque, vous avez le droit, là, puis je repartirai pas. Puis ça vous donne rien de m'envoyer vos tartines avec le réchauffé qu'on connaît. Moi, je pense que le masque peut jouer un rôle. Je dis pas que c'est parfait. Mais c'est un signe de respect, notamment pour des gens qui sont plus vulnérables. Parce que quand on vit en société, ben oui, on côtoie des gens qui sont vulnérables. Donc, si on va, par exemple, au centre commercial, si on va à l'épicerie, si on va voir un spectacle, à l'hôpital, ça va de soi, me semble. Si vous allez chez votre médecin, le port du masque est requis. Puis on le voit de plus en plus. Pas tant que ça, mais disons un peu plus. Il n'est pas question de l'imposer à l'école. Puis on invite les gens aussi à se laver les mains, puis à mettre à jour la vaccination. Puis quand je parle de la vaccination, ajoutons également le vaccin contre la grippe. Est-ce que le vaccin pour la grippe, contre la grippe sera gratuit? On sait que c'est payé pour certaines catégories. Ça a l'air qu'on n'est pas rendu là. Mais quand c'est gratuit, quand il y a un accès, ça peut sans doute aider des gens aussi à aller se faire vacciner. Alors voilà pour ce qui est du masque. Le docteur Boileau sera avec nous un petit peu plus tard ce matin. Je vais vous parler du dossier Julien Lacroix qui a été développé par Marie-Ève Tremblay du 98.5 qui collabore à l'émission de Luc Ferrandez et Isabelle Haché en disant, 2 ans plus tard, un certain nombre de victimes qui étaient dans le reportage publié par Le Devoir, ils étaient 9 au total, modifient un peu la version des faits en disant on n'a pas été vraiment des victimes. On nous a mis l'étiquette. Puis quand on a vu la façon dont ça a été publié, on ne se sentait pas confortable. Et c'est pour ça qu'on le dit aujourd'hui, premièrement. Deuxièmement, qu'elles ont senti, je le rappelle, une pression des pairs en disant « il faut que tu dénonces, on sait que Lacroix a fait ça, a fait ci, a posé des gestes inacceptables, il faut que ta voix s'ajoute à celle des autres. » Il y avait comme une campagne. Et ou bien t'es avec nous, ou t'es du bord des agresseurs. Et puis, la sentence publique, la sentence des réseaux sociaux, qui fait que c'est une sentence à vie, et que lui, Lacroix, avec tous les défauts de la terre, vous écouterez le balado de Marie-Ève, il ne s'agit pas de le réhabiliter puis de le défendre, là, il s'agit de dire, c'est une sentence à vie. On a donc parlé de ça hier matin. Je vous jure, le volume de messages que j'ai reçus de haine, là, puis je prends bien soin de le dire parce que c'est ça. Des phrases du genre, ça va te coller toute ta vie. Je savais pas que t'étais un abuseur. J'ai rien dit, moi, là. J'ai permis à 2 femmes journalistes de venir me présenter le bilan de leur travail qui met en lumière, on va se le dire, là, certaines failles dans le reportage du Devoir qui, d'ailleurs, a envoyé un petit mot. Hier, en fin de journée, qui dit quoi? Ça a été fait dans les règles de l'art et on n'a pas répondu aux questions parce qu'on voulait connaître le contexte puis on donne pas d'entrevue. Hey, ça fait poche, là. Tu voulais connaître le contexte, tu savais exactement sur quoi les questions portaient. Je dis, c'est ridicule, là. Je pensais que Le Devoir était plus sérieux que ça. J'ai plus de respect, normalement, pour Le Devoir que ce qu'ils tentent de faire actuellement. Puis là, je vois ça, là, on est en train encore de diviser le monde, là. Si tu mets des bémols, t'es du bord des agresseurs. On a répété hier que Lacroix avait posé des gestes ignobles. Tu as le droit de te dire, est-ce que on n'a pas fait des amalgames rapides dans les témoignages? Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de victimes. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu des comportements inappropriés puis des agressions. C'est pas ça que je dis. Puis c'est pas ça que le reportage dit. Ça dit, wow, il y a des femmes qui faisaient partie des plaignantes qui disent on ne l'était pas vraiment puis on a été comme utilisé. C'est tout ce que ça dit. Et ça amène une réflexion puis une discussion. On est obligé de se crier des bêtises puis de se menacer pour ça. Trouvez ça quand même assez étonnant. Puis en parlant de terreur, vous lirez dans la presse ce matin l'histoire d'un gars qui s'appelle Michel Vachon, qui habite Saint-Constant puis qui est à temps plein sur le dos de la ville. Il y a toujours quelques personnages étranges dans les assemblées des conseils municipaux. Mais lui, là, il pourchasse les employés. Il a bousculé une employée de la ville. Il y a des interdictions de se présenter. La cour est la ville est obligée de se présenter en cour continuellement pour obtenir des ordonnances. Il fait des requêtes en vertu de l'accès à l'information qui coûte la totale. C'est un ancien candidat défait à la mairie. Il avait ramassé des grenailles. Mais c'est surtout, tu sais, un quérulant, là. Lui, là, il est à temps plein sur le dos de la ville. Puis t'as le droit, comme citoyen, de poser des questions. C'est pas ça le point, là. Il y a toujours bien des limites. À suivre en vélo les employés. Et le maire a demandé une rencontre pour dire, nous, la ville, on n'a pas les moyens de se battre continuellement contre un gars de main. Alors, c'est un gars costaud, là, semble-t-il, connu dans la place, puis qui arrête pas de harceler. Coup d'œil rapide sur les nouvelles internationales. D'abord, en Ukraine, la Russie, qui envoie une nouvelle vague de missiles, les villes d'Odessa et de Dnipro, frappées pour la première fois depuis des semaines. L'Ukraine, qui prétend également que le missile tombé en Pologne n'est pas un missile ukrainien du système de défense. Alors, c'est la prétention. Et au même moment, ben vous avez toujours ces ruptures d'alimentation en électricité, comme disait Fabrice hier, l'hiver qui commence à s'installer là aussi. Et puis, dernier petit mot, les images de Justin Trudeau en face-à-face avec le président chinois font le tour du monde. Par le biais des interprètes, quand le président Xi Jinping dit à Trudeau, ce qu'on s'est dit, c'était en privé, puis vous n'aviez pas d'affaire à répéter ça. Et là, c'est comme s'il donnait une leçon. Et que, sérieusement, M. Trudeau avait l'air d'un enfant à côté de l'autre qui le rabrouait pour ne pas avoir respecté la confidentialité des discussions. Puis là, on sait que le Canada commence à changer de ton avec la Chine. Il y a eu l'arrestation de cet espion chinois présumé chez Hydro-Québec. Fait que disons que les relations entre le Canada et la Chine, ça commence à ressembler à une belle marmite.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcand.
Alors, l'inflation plafonne un peu, mais ça demeure élevé, donc autour de 7 %. Il y a toujours des secteurs qui sont plus touchés. Pense à l'alimentation. Au-delà de 10 %, vous regardez aussi le prix de l'essence qui a continué de grimper durant le mois d'octobre. Et tout ça arrive au moment où les Québécois, qui font face avec, je dirais aussi, dans certains cas, beaucoup de difficultés, à des factures qui prennent de l'ampleur, là, on peut penser au taux d'intérêt, et qui se disent, comment je fais pour gérer ma course à l'épicerie? Comment je fais pour payer mon panier d'épicerie? Et on a vu les bannières qu'on a accusées ou soupçonnées, disons, de peut-être se remplir les poches en même temps, de offrir des stratégies de rabais, des prix garantis. Est-ce que ça marche ou pas? Je fais le point sur toutes ces questions-là avec Sylvain Charlebois de l'Université Dalhousie. Monsieur Charlebois, bonjour.
Bonjour, Paul.
D'abord, quand vous regardez le panier d'épicerie, là, je voyais ce matin laitue, margarine, les pâtes alimentaires, est-ce qu'on a atteint un certain plafond dans la croissance des prix, selon vous, ou si on va continuer à payer de plus en plus cher?
Les prix vont continuer à augmenter. Mais pour ce qui est du taux d'inflation alimentaire, je pense qu'on a atteint un sommet. Donc, autrement dit, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'on n'est pas sorti du bois, mais on voit la lumière au bout du tunnel, là.
Puis en termes d'approvisionnement, là, on a vu la crise de la laitue la semaine passée. Est-ce qu'on va être capable d'avoir accès, donc, puis de pouvoir importer, là, on entre dans la période d'hiver au Québec, ce dont on a besoin?
Oui, ben en fait, la crise de laitue continue, hein.
Ouais.
La laitue est difficile à obtenir, puis s'il y en a, la laitue est très chère, surtout pour la Iceberg et puis la Romaine, là, c'est vraiment une raison. La raison principale, c'est la Californie. Au mois de décembre, les choses vont se replacer. Puis ce qui nous aide pour les prochains mois, actuellement, on s'en rend pas compte immédiatement, mais plus tard, je pense que le dollar canadien va nous aider là à 75 sous là on entame en fait le début de l'hiver avec une monnaie forte versus le dollar américain, alors ça va nous aider beaucoup ça dans les prochains mois.
Bon, le client, le consommateur, il regarde les grandes chaînes d'épicerie qui y vont de stratégie de proposition. Prenons le cas de Loblaw qui a dit ben je vais geler mes prix sur 1500 produits pour 3 mois, donc jusqu'à la fin janvier. Comment c'est reçu? Vous avez fait une enquête là-dessus, là. Comment le consommateur voit ça?
Ben, c'est sûr que quand l'annonce a été faite par Loblaw Provigo Maxi le 17 octobre, il y a eu beaucoup de critiques. Hein. Il y a beaucoup de gens qui accusaient la bannière de faire un coup de marketing. Puis c'est vrai, là, c'est vraiment un coup de marketing. Mais nous, on voulait sonder les Canadiens à savoir est-ce que vous allez profiter de cette campagne-là? Puis pratiquement le 2/3 des Canadiens nous ont dit que non seulement qu'ils vont profiter de la campagne, mais ils l'ont déjà fait. Et ça fait 3 semaines, là. On est dans la 4e semaine de la campagne, là. Ça va durer jusqu'à la fin janvier. Alors, on voit clairement que les gens sont à la recherche d'un paquet de stratégies, d'un paquet de solutions pour sauver de l'argent actuellement, là.
Est-ce que vous avez déterminé ce que les Canadiens veulent? Qu'est-ce qu'ils aiment comme proposition pour réduire les prix?
Ouais, c'est ben le gel de prix est un concept nouveau là. C'est la première fois qu'on voyait ça depuis je sais pas combien d'années. Mais vraiment la stratégie la plus appréciée actuellement c'est la garantie de bas prix. On le voit là au sein de certaines bannières là, on garantit le plus bas prix possible. C'est ce qui semble être apprécié encore mieux, encore plus que le gel de prix.
Avec votre expérience, là, quand on nous annonce, par exemple, qu'on gèle des prix, est-ce qu'on les gèle quand ils sont à leur plus haut niveau? Quand on nous dit que c'est le plus bas prix, est-ce que c'est facile de comparer la marque, la quantité? Autrement dit, là, devant des offres comme ça, on est toujours un peu sceptique.
Ben, en fait, les gens ont le droit d'être sceptiques, là. Le gel de prix, il faut comprendre qu'avec un gel de prix, c'est avec le temps qu'on sauve de l'argent. Hein.
Ouais.
Fait que le 17 octobre dernier, les gens me demandaient, bon, est-ce qu'on les gens peuvent épargner? Ben, la réponse, c'est ça dépend. Ça dépend de l'inflation, ça dépend de ce qui va se passer avec les prix. Actuellement, là, la campagne de gel de prix affecte les produits sans nom. Ben, il y a des produits de marques sont moins chères que le sans nom. Ça dépend qu'est-ce qu'on achète, là. Mais à partir du mois de décembre, janvier, quand l'inflation va continuer à faire son œuvre, plus qu'on avance dans la campagne, plus qu'il y a des chances qu'on épargne en achetant des produits sans nom. Donc, c'est un peu comme ça qu'on faut le voir, là.
Puis en même temps aussi, c'est relié à nos choix. C'est-à-dire que si on va dans des grandes surfaces, si on achète en plus grosse quantité, si par exemple on partage avec d'autres, c'est une façon aussi de mieux gérer la facture d'épicerie.
Ben, ce qui se passe, c'est moi je pense que les consommateurs sont de plus en plus intelligents, sont de fins stratèges, ils regardent leurs options, ils vont aller à plus qu'un endroit, pas juste à un magasin, mais ils vont alterner entre 2-3 magasins. Puis ce qui arrive, Paul, ces temps-ci, c'est que les conditions de marché changent tellement rapidement, à chaque jour, les prix changent à chaque jour, puis l'avantage qu'on a comme consommateur, contrairement à avant la COVID, c'est qu'on peut aller en ligne, vérifier la valeur acceptable d'un produit avant même de quitter la maison. On peut le faire là, tout de suite. Là. Et puis, lorsqu'on arrive au magasin, on peut savoir si le prix est trop cher ou pas.
M. Charlebois, merci. Bonne journée.
Bonne journée.
Au revoir. Sylvain Charlebois, qui est professeur à l'Université d'Alouz.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute.
On va parler de ce qui se passe à Saint-Constant. Un citoyen qui s'appelle Michel Vachon, qui, depuis des années, est ce qu'on appelle un quirulant. Il y a toujours des gens un peu étranges qui se présentent dans les conseils municipaux, là, qui font des spectacles. Vous avez juste à écouter Infoman, ils ont un segment consacré à ça. Mais il y a des limites à ce qu'on peut endurer, là. Que des citoyens soient très, très engagés, que des citoyens fassent des demandes pour avoir de l'information, prennent la parole au conseil municipal, c'est une chose. Mais quand vous commencez à suivre les employés, à bousculer des employés, à harceler des employés, c'est ce que fait et fait encore, de toute évidence, Michel Vachon, là, il y a des limites. Le problème, c'est évidemment la possibilité d'avoir des recours, puis le temps, l'énergie et l'argent que ça prend pour se battre contre ce citoyen-là qui a décidé que dans la vie, tout ce qu'il faisait, c'est d'écœurer la ville. Jean-Claude Boyer est le maire de Saint-Constant. Monsieur Boyer, bonjour.
Bonjour, M. Arcan.
D'abord, Michel Vachon, là, votre citoyen, il a commencé quand là, sa croisade contre la ville?
En fait, ça a commencé en 2016. Mais je vous dirais quand même, dans son attitude, là, moi je suis devenu maire en 2013, déjà ses interventions au conseil en 2014, je dirais, parce que novembre 2013, j'ai été élu, 2014-2015, c'était particulier comme intervention. Tu sais, on se disait, mais c'est particulier de faire des interventions comme ça où il y a toujours des jugements sur les décisions, là, puis
qu'est-ce qu'il y avait de particulier?
Mais en fait, il voyait le mal dans tout ce qu'on faisait, déjà à ce moment-là. Tu sais, je vais vous donner un exemple. C'est un exemple récent que je peux vous donner. Mmh. Là, on a des terrains résiduels des fois dans les villes, puis des fois on les met en vente pour des développements domiciliaires. On a mis un terrain en vente il y a quelques temps déjà. Et puis, dans le processus normal, là, puis un promoteur, les promoteurs qui ont fait des offres, puis bon, selon les évaluations et tout ça, un promoteur a remporté l'offre. Donc, ce promoteur-là, on lui vend le terrain selon un nom de promoteur. Là, je n'aimerais pas son nom. Et puis, on passe une résolution là-dessus. Alors, et puis ce promoteur-là revient à nos services ici pour dire, hey, by the way, ce sera pas vraiment ce nom-là. Si j'ai deux compagnies, ça va être le paiement va se faire de mon autre compagnie. Donc, nous, on a dû changer la résolution pour que ça corresponde, en fait. Mais M. Vachon, lui, il prétend qu'on a vendu le terrain deux fois. Donc, alors que c'est pas le cas. Donc, je pourrais vous en nommer comme ça des centaines et des centaines de cas depuis 2014-2015. Mais en 2016, la dérape a commencé encore plus, de façon plus évidente, bien entendu.
Quand vous dites une dérape, là, ça veut dire quoi? Là, qu'est-ce qu'il fait?
Mais en fait, il intimide les gens, il les harcèle, il les suit. Là, quand je parle des gens, je parle même des citoyens qui là, il vient pas aux séances, il est interdit de venir là, jusqu'à maintenant encore. Mais quand il venait, il intimidait par sa présence les gens qui assistaient au conseil. Il intimidait les élus, intimidait les employés, il suit les employés. Mais là, dans les dernières années, il a même fait des voies de fait à l'endroit d'élus et d'employés. Donc, écoutez, ça a juste pas de bon sens. C'est une saga complètement interminable.
Quand vous dites intimidé, d'abord, il est grand, il est petit, il a quel âge? Pourriez-vous me le décrire?
C'est une personne à peu près de, je dirais, 6 pieds 2, au-dessus de 200 livres, et puis qui est au début de la soixantaine. Je pense qu'il a 62 ans.
OK. Puis quand
à l'époque, il n'y avait pas ça, là.
Ouais. Quand vous dites il intimide, qu'est-ce qu'il fait? Il va vous voir, il vous engueule, il vous envoie des.
Absolument, par ses paroles, en fait. OK, par ses paroles. Lorsque j'ai dit qu'il est intimide, mais par sa présence, il est intimidant par sa présence, par ses regards, par sa parole, par ses jugements qu'il fait sur nous constamment. Lorsqu'il suit les gens, lorsqu'il se promène à l'entour de l'hôtel de ville, lorsqu'il prend les numéros de plaques des employés, lorsqu'il les suit jusqu'à chez eux, écoutez, ça finit plus, en fait. Je pourrais vous en parler jusqu'à demain matin. Là. C'est incroyable tout ce qu'on a vécu depuis presque 7 ans bientôt. Là.
Je lisais dans la presse ce matin les résultats de l'enquête de Tristan Péloquin. Là, quand vous me parlez de voie de fait, là, il a frappé une employée.
Oui, il s'est rendu chez elle au mois de février.
Attendez, chez elle?
Oui, dans sa rue, là, tout près de chez elle. Maître Laflamme sortait après son travail. Là, et puis, elle promenait son chien, en fait. Et puis, il l'a chargé en vélo. Et puis, Maître Laflamme, pour lui, c'est, écoute, excusez-moi l'expression, mais dans son target, là, au niveau des personnes atteintes, là, ou à atteindre. Là. Donc, c'est incroyable.
C'est la greffière de la ville.
Oui, c'est la greffière de la ville, okay. Exactement, tout à fait.
Mais là, il a été accusé de voies de fait, je peux pas croire, là, je veux dire...
Michel Vachon a été accusé 3 fois de voies de fait à l'endroit de Mario Perron, de David Lemelin, qui sont des conseillers municipaux, et de Maître Laflamme tout récemment, et puis il a fait la prison à ce niveau-là, mais écoutez, on est encore, présentement, nous, on est en poursuite au civil, au niveau des injonctions, et puis c'est pour ça un peu que j'ai écrit au gouvernement, parce que je me dis... On va jusqu'à où, là, avec ça? En fait, puis le système judiciaire se parle pas. Ce qui est fait au civil ne parle pas aux criminels ou vice-versa. Et puis, au niveau des affaires municipales, mais nous, ce qu'on demande, c'est de l'aide des affaires municipales, l'aide financière, parce que c'est quand même des coûts à ce niveau-là pour que les villes soient mieux équipées, en fait, pour faire face à des situations comme celle-là. Là.
Mais lui, il fait ça temps plein, de la façon dont vous m'en parlez?
Il fait ça temps plein, il travaille pas depuis très très longtemps. En fait, moi depuis que je le connais, depuis 2013, cette personne-là ne travaille pas. Là.
Mais il y a des limites là. Je comprends des gens qui posent des questions, je comprends des gens qui font partie de l'opposition, mais de là à prendre en filature les employés de la ville, les élus, les suivre dans leur coin, les bousculer.
Non, mais c'est ça, comme vous dites, de poser des questions, c'est pas ça qui est le problème. Puis on a toujours des bonnes séances de conseil, les gens s'expriment et tout ça, mais là, on n'est pas là du tout dans son cas. Là. On est une personne qui, en tout cas, c'est des agissements complètement anormales. On peut pas agir comme ça normalement dans la vie. Là. Puis, il ne comprend rien du tout. Là, présentement, il est déjà en 2 outrages au tribunal pour 10 infractions sur l'injonction permanente qu'il y a eu en 2021. Et puis là, il y a 2 autres outrages au tribunal au mois de janvier à Lando. Ben, en fait, lorsqu'il a attaqué Maître Laflamme, il était sous une injonction permanente de ne pas approcher les élus ni les employés, ne pas leur adresser la parole. Donc, ça n'avait pas empêché d'aller la charger chez elle où elle reste. Là.
Puis là, je comprends qu'il habite pas bien loin de l'hôtel de ville.
Il est à peu près à 400 mètres de l'hôtel de ville.
Mais c'est un climat de terreur.
C'est un climat de terreur. Puis vous comprendrez que nous, en tant qu'employeurs, on se doit d'assurer la sécurité de nos employés et puis des élus et même des citoyens lorsqu'ils pouvaient assister au conseil municipal. Donc, et puis comme je dis souvent, chacun dans la vie, tout le monde a le droit à sa vie démocratique, à poser des questions. Puis c'est pas ça l'enjeu là-dedans, mais pas du tout. Là. C'est ça, son comportement qui est inacceptable. Puis là, ça nous occasionne des procédures. Tout le monde est épuisé, ici, en fait, de toutes ces procédures-là. On passe encore à la cour là, à 9h30 ce matin là, pour prolonger l'injonction provisoire à son égard.
Mais je vais vous dire, puis vous l'avez sans doute fait, ou ça vaut peut-être même pas la peine, il n'y a pas quelqu'un de son entourage, il n'y a pas moyen de le raisonner, de dire, attends un peu, on va s'asseoir, là, puis voici comment on peut regarder ça, puis de façon calme, sans créer ce climat?
Mais c'est ça la problématique, c'est cette personne-là, elle est seule. Donc, de ce que je connais de cette personne-là, il n'y a pas personne qui... Elle reste seule. Je pense que c'est une personne qui est divorcée depuis 1999, je pense. Et puis, elle habite seule, elle n'a pas d'enfant, semble pas avoir vraiment d'amis là ou de parenté qui s'en occupe. Donc, il y a vraiment personne pour la raisonner. Puis, vous avez raison. Des fois, dans une famille, quand quelqu'un dérape un peu, lorsqu'elle est entourée, puis on peut lui dire, mais je pense que tu vas un peu trop loin, puis on peut la ramener un peu, mais cette personne-là n'a pas ces gens-là.
En conclusion, vous souhaitez quoi?
En fait, en conclusion, on souhaite que le gouvernement donne des moyens à la Cour pour qu'elle puisse agir de façon plus rapide là-dedans, parce qu'on est toujours en train de recommencer des processus complets du début. Il n'y a jamais de lien qui se fait avec ce qui a été fait, les jugements passés. On demande au gouvernement d'aider les villes qui sont aux prises avec ce genre de situation-là. Et puis qu'on nous donne même des moyens d'agir sans qu'on passe à la cour quand on arrive à des situations comme ça, qu'on puisse avoir les moyens d'agir directement là-dessus. Là. Et puis qu'on donne des moyens aussi aux policiers, mieux équiper des policiers, faire face avec des personnes comme ça aussi. Donc c'est un peu un cri du cœur qu'on fait aujourd'hui. J'ai interpellé le gouvernement parce qu'à un moment donné, il faut que ça arrête en quelque part. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a recommencé un processus judiciaire pour avoir une injonction permanente pour qu'il soit banni à vie, en fait, parce que cette personne-là ne comprend pas. Si elle comprenait, puis elle comprenait ses torts, oui, j'ai mal agi, mais non, jamais. Elle se justifie dans toutes ses actions, donc c'est inacceptable.
Merci, M. Boyer. Bonne journée.
Merci, M. Arquin. Bonne journée à vous.
Jean-Claude Boyer, le maire de Saint-Constant. C'est un cas, comme on dit, extrême, là, de quérulents puis de personnes. Bon, on fera pas de qualificatif, là. Mais puis c'est pas la seule ville au Québec, j'imagine, qui est aux prises avec des gens. Puis je vous le dis, là, un peu à la blague, j'écoute Infoman, puis on voit des personnages se présenter dans les séances, comme ça, du conseil municipal. Mais là, on n'est pas juste dans la distraction ou le divertissement. Là, on est carrément devant quelqu'un qui a décidé de faire ça temps complet. Puis ça va par de l'intimidation, du harcèlement puis des voies de fait. T'as misère à croire qu'on n'est pas capable de mieux contrôler ce genre d'individu, mais en tout cas. Mais mettez-vous à la place des employés de la ville, à la place des élus. T'as-tu le goût, toi, comme maire, de subir ça? T'es pas, tu sais.
Semble que. Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcand.
Demain matin, il y a des changements qui sont faits au tunnel La Fontaine. Puis en plus de ça, il y a des mesures additionnelles d'atténuation, donc une nouvelle offre de service pour essayer de limiter les inconvénients de ce méga chantier au tunnel La Fontaine. Je vais en parler avec Gilles Payet, qui est porte-parole donc au ministère des Transports et, il faut le dire maintenant, de la mobilité durable. Gilles, bonjour.
Oui, bonjour, M. Arcand.
D'abord, la première question, qu'est-ce qui va se passer demain? Qu'est-ce qu'il y a de différent au tunnel?
Ben, après la fermeture complète en direction sud de cette nuit, 21h jusqu'à demain, 5h. Demain, 5h, les camions, tous les camions lourds vont devoir éviter la voie de droite en direction sud. Alors donc, par conséquent, utiliser la voie de gauche. Mais je tiens à dire tout de suite quand même que, pour rassurer les camionneurs, que vous avez le droit, camionneurs, camionneuses, de sortir à Sherbrooke, de sortir à Souligny, de sortir à Notre-Dame, donc de couper le trafic et d'empiéter sur la voie de droite pour sortir.
OK, pour que ça soit bien clair dans ma tête, là, ça veut dire que tous les camions dans la voie de gauche, sauf pour le tronçon leur permettant de prendre la sortie.
Exact. Ils ont le droit de prendre les sorties. Oui. Mais on demande aux camions d'utiliser la voie de gauche en direction sud. Donc, interdiction de prendre la voie de droite pour aller prendre le tunnel. Mais pour sortir, oui, les trois sorties, c'est accessible.
OK, et ça veut dire que dans la voie de droite, il n'y aura que des voitures?
Ben, à part le transit dont on vient de parler, oui.
OK. Pourquoi on fait ça?
Ça va aider beaucoup.
Pour quelle raison?
Ça va aider beaucoup. Parce qu'en mettant tous les camions dans la voie de gauche jusqu'à aujourd'hui, on créait un mur de camions qui empêchait ou ralentissait beaucoup l'accès par Souligny, ralentissait beaucoup l'accès par la rue Sherbrooke et l'accès par les autoroutes 40 et 25. Alors, en mettant tous les camions à gauche, ben ils sont chanceux parce qu'ils vont pouvoir rester dans cette voie-là et enfiler directement dans le tunnel. Ils vont être déjà dans leur voie.
OK. Est-ce qu'il y a d'autres changements qui sont prévus?
En ce qui concerne le camionnage ou la gestion de la circulation?
Gestion de la circule.
Jusqu'à maintenant, ça, c'est la meilleure solution qui a été trouvée. Ça a été étudié, évidemment, depuis le début. On a observé cette espèce d'écosystème qui est une expérience, dans le fond. Alors ça, ça devrait sensiblement contribuer à limiter la congestion et surtout améliorer la sécurité du secteur.
OK. Maintenant, il y a des nouvelles mesures là, qui ont été annoncées. Notamment, là, il y a une navette santé qui est prévue pour amener les travailleurs vers l'hôpital et les patients aussi, là, vers l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Qu'est-ce qu'il y a, en gros, de changement, là?
C'est une nouvelle navette, alors une nouvelle ligne de bus qui va partir de la rive sud et qui va aller donc traverser le tunnel vers Montréal, faire un arrêt à Radisson, mais continuer jusqu'à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont pour accommoder le personnel nombreux de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Et c'est arrimé avec les horaires des gens. Il y a trois départs le matin, donc trois retours vers la rive sud. Il y a trois départs pour l'après-midi avec les retours conséquents. Donc c'est arrimé et ça a été fait en discussion et en collaboration avec les gens du CIUS du secteur.
OK. Et il y a d'autres changements aussi, je pense à Sainte-Julie, là, pour ce qui est du transport, là, justement, vers Montréal.
Bien, évidemment, on a regardé l'achalandeur, on a vu comment on pouvait optimiser, rationaliser, ramifier, améliorer. Ben, alors, on coupe une ligne EXO 521 pour rabattre tout le monde sur 520, mais et ça va donner plus de départs aux 30 minutes au lieu des heures. Ça, c'est pendant les heures de pointe. Et pour ceux qui ne seront pas comblés par ce service-là, qui sera retiré, la 521, ben ils vont pouvoir avoir le service RTL à la demande qui fonctionne très bien avec l'application et qui est très flexible et très souple.
OK. Est-ce que vous avez une évaluation de l'achalandage? On voit les stationnements incitatifs plus ou moins utilisés. Y a-tu du monde dans les autobus? Y a-tu du monde dans les navettes?
Ben, si je regarde seulement hier matin, on a un rapport quotidien qui est public d'ailleurs. On a quand même des centaines de personnes qui seulement hier matin ont pris les lignes 61 et 461 dans les deux directions confondues. Si vous ajoutez EXO avec la ligne 520, 521, 532, c'est d'autres centaines de personnes. Et ça, c'est seulement en matinée. Alors l'achalandage, oui, il fluctue comme l'auto fluctue ou la quantité d'auto fluctue sur les routes. Mais grosso modo, c'est bien. Il y a une augmentation sur la ligne jaune d'un bon 12%. Les stationnements, il y a encore de la capacité. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on en avait prévu suffisamment. Alors, il reste de la place dans les 5 stationnements de la Rive-Sud. Il n'en tient qu'à tout le monde de l'essayer. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on continue de donner des billets gratuits au-delà du 27 novembre. On va se rendre jusqu'au 18 décembre pour les billets gratuits qu'on remet à l'arrivée à Radisson.
OK, merci beaucoup. Gilles Payet, qui est du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Là, je vais me parler, tourner vers Marc.
Oui.
Là, on comprend que demain, les camions à gauche.
Exactement. Alors qu'aujourd'hui, c'est à droite. C'est, okay. C'est pour ça la fermeture cette nuit, pour changer la configuration.
OK. Et là, tu nous as répété depuis le début que les camionneurs, eux, sacraient parce oui. qu'ils se faisaient couper vers les autos.
Ben oui, puis c'est plus long pour eux. Quand on donne un chrono en moyenne, faut toujours en rajouter pour la voie des camions. Il y a plusieurs phénomènes à ça. C'est vrai qu'à droite, avec les entrées-sorties, ça devenait difficile. Mais c'est surtout au goulot d'étranglement quand ça passe de deux à une voie. Là, je parlais avec des camionneurs qui me disaient 5-6 voitures qui se collent au derrière, pour utiliser l'expression consacrée, et qui ne laisse pas passer le camion. Donc, on enfile les véhicules, et quand le camion finit par passer, bien évidemment, ça repart tout doucement et ça amène pas mal plus de retard derrière. J'espère que ça va améliorer les choses, mais il y a l'enjeu, vraiment, là, cet enjeu-là au goulot d'étranglement, faudra s'y pencher. Des gens qui suggèrent un feu de circulation, je sais pas s'il faut aller jusque-là, mais clairement, ça va prendre au minimum de la surveillance. Puis, il y a un autre phénomène, là, ceux qui circulent avec des grosses remorques, parfois se prennent pour une voiture, parfois se prennent pour un camion. Ça dépend ce qui les avantage. Il faut mettre les normes claires et qu'il y ait de la surveillance, c'est un plus, je pense.
OK, puis c'est juste pour notre information, ça ressemble à quoi ce matin?
C'est congestionné, évidemment, mais c'est dans le secteur habituel, sortie Beaubien-Prévost, c'est du 45 minutes, encore plus pour les camions. Ceux qui arrivent de la 40 ouest, ben évidemment, c'est dans les changeurs en joue parce qu'eux sont pris dans la voie de gauche jusque dans le secteur de la sortie Beaubien. Il y a une glissière de sécurité. Et pour ce qui est du transport en commun, là, je surveille justement les bilans d'hier. Là, il y a 800-900 véhicules dans les 2400 places de stationnement. Il y a de l'espace en masse. Et oui, il y a quelques centaines de personnes qui prennent l'autobus, mais le tunnel à Fontaine, c'est 120 000 passages de véhicules. Alors, le transfert, c'est pas fait vers le transport en commun. Les gens sur la Rive-Sud sont restés à la maison.
Ben, c'est ce que je pense. Puis, normalement, le mercredi, jeudi, ce sont les grosses journées. Là, parce oui. que quand tu prends lundi puis vendredi, il y a pas mal moins de
mais
monde.
Mais il n'y en a plus de grosses journées au tunnel vers Montréal. C'est plus facile qu'avant les travaux. Ça démontre absolument ce qui s'est passé. Oui, il y a eu un transfert vers un changement d'habitude, mais je vous le dis, là, parlez aux gens de la Rive-Sud, puis la plupart vont vous répondre, on va plus à Montréal, ou on y va seulement quand c'est nécessaire.
Pis c'est pas parce qu'on a choisi un autre pont, là.
Non, pas du tout.
Il y a une au partie début, de
gens,
il y a eu ça,
oui, mais... il y a eu ça au début vers Samuel de Champlain, mais, ouais. mais ce que je constate, là, c'est que les gens demeurent sur la Rive-Sud, puis s'organisent sur la Rive-Sud, et vont de moins en moins à Montréal, sauf quand c'est obligatoire ou pour le travail.
Parfait, merci beaucoup.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute.
Bon, ben, allons-y avec un autre sujet qui est pas plus jojo, puisqu'on parle de harcèlement, Bénédicte. C'est une femme qui s'est fait harceler pendant 8 mois. Puis vous allez voir un peu des comparatifs avec les deux affaires, là. Ça a pris donc 8 mois avant que le suspect soit arrêté.
Et le suspect, c'était Noah Schenker, qui a fait vivre un véritable cauchemar à la jeune femme. Ça commence en juillet 2019. Elle commence à recevoir des textos d'un numéro qu'elle ne reconnaît pas. Et la personne ne veut pas s'identifier dans les messages. Au fil du temps, les messages augmentent en fréquence et elle décide finalement d'appeler le numéro plusieurs fois. Ça répond pas. Mais à un certain moment, ça répond. Elle veut voir si elle peut reconnaître la voix de la personne. C'est un homme qui répond et tout ce qu'il dit au bout du fil, c'est « salut » en anglais. Donc, elle reconnaît que c'est un homme anglophone, mais qu'elle ne semble pas connaître. Et là, les messages s'intensifient et commencent à l'inquiéter davantage parce que ça laisse croire qu'il la surveille. Par exemple, à un moment donné, il dit à quel point il est joli avec un masque chirurgical au travail. Et effectivement, elle a porté un masque dans le cadre de son travail d'esthéticienne et c'était bien avant la COVID-19. Là, donc, il n'y avait pas de masque. C'était pas commun de
non,
porter un masque au travail. Elle lui demande à plusieurs reprises d'arrêter de la contacter. Et à un moment donné, ça passe à un autre niveau. Elle quitte chez elle pour se rendre au travail et quelques minutes après qu'elle soit entrée dans sa voiture, il y a une voiture qui s'arrête à côté de la sienne, qui l'empêche de partir. Elle pense que c'est quelqu'un qui veut lui demander son chemin, mais c'est un homme qui est là, qui baisse sa fenêtre. Et une fois qu'elle le regarde, elle le reconnaît comme un ancien client du bar où elle a déjà travaillé comme serveuse. Elle l'a servi à 5 ou 6 reprises en 2018-2019. Et la première chose que Noah Schenker lui dit, c'est « Salut, comment vas-tu? C'était difficile de te trouver. » Et là, à ce moment-là, le déclic se fait. Elle reconnaît la voix anglophone comme étant l'homme au téléphone. Heureusement, il y a un autobus de la ville qui arrive. La voiture est obligée de se déplacer. Mais là, elle décide de porter plainte parce qu'elle avait aussi reçu des post-it sur sa voiture où il y avait des numéros de téléphone où il disait lui donner rendez-vous. Et elle est allée au poste de police. Quand elle revient, il y a 4 autres messages différents.
Ah, pas de bon, ça.
Lui, finalement, a été arrêté en mars 2020. Et la défense disait que c'était pas vraiment du harcèlement criminel en droit, les comportements de M. Schenker. Au pire, c'était un comportement bizarre, gênant. Et il disait aussi qu'il n'y avait aucune preuve que la femme craignait pour sa sécurité. Ce qu'on a donné comme exemple, elle a filmé quand elle a trouvé les 4 post-it. Elle a filmé une vidéo qu'on a présentée. Et la défense disait qu'on trouvait pas qu'elle avait un ton alarmé, mais juste agacé. Et c'est intéressant quand même la réponse que le juge de Denis Galiatsatos a écrit dans sa décision qui a été rendue récemment. Complètement en désaccord avec la défense. Il dit que la voix de la femme, bon, d'abord, est pas nonchalante. Il dit, est-ce que nous devons exiger que chaque plaignante crie, oh mon Dieu, je vais mourir, tout en s'arrachant les cheveux, en se roulant par terre? Ce n'est pas la réalité. Une telle approche est inappropriée, pardon. Et il a rappelé que, justement, il n'y a pas de règle inviolable sur la façon dont les victimes devraient se comporter. Et le juge a reconnu qu'il avait bel et bien harcelé la femme, ne l'a pas reconnu coupable tout de suite parce que, bon, a demandé une évaluation psychiatrique afin de vérifier s'il peut être tenu non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux. Mais je me mettais à sa place, la voiture qui s'arrête, à son travail, à ses pas c'est qui, elle reconnaît la voix, on dirait que c'est un film.
Il y a vraiment des gens qui vont pas bien. Hein?
Ouais, clairement.
Le SPVM qui aurait été 10 présumés trafiquants de stupéfiants et d'armes à feu.
Et eux sont liés à un important réseau de trafic entre Toronto et Montréal. Et c'était la deuxième phase hier. Parce que la première phase, il y avait eu des perquisitions en juin. On avait entre autres saisi 8 armes de poing, une carabine d'assaut de type AR-15, 2 millions de cocaïne, 1 million en argent comptant. Ce qu'on comprend, c'est que le réseau démantelé était contrôlé à partir de Montréal. Ce qu'on a expliqué hier, c'est que les individus allaient à Toronto avec des sacs remplis d'argent toutes les semaines et revenaient avec de la drogue et des armes. Donc, hier, c'était la deuxième phase. On a arrêté 10 suspects. Le chef présumé du groupe, Emmanuel Putira-Roy, est toujours en cavale. Et élément intéressant, ben, du moins qui a retenu l'attention, il y a une policière de Laval qui a été suspendue hier après que son employeur a appris qu'elle était la conjointe d'un des présumés trafiquants de drogue et d'armes qui a été arrêté. La police de Laval m'a confirmé l'information ce matin. Dans le fond, quand les enquêteurs sont arrivés chez un des suspects, il y avait une policière de Laval qui était là et la police de Laval accompagnait le SPVM. On dit qu'elle est suspendue avec traitement le temps qu'il y ait une enquête administrative.
Merci beaucoup, Bénédicte.
L'essentiel de Paul Arcan.
C'est 23.